en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter maintenant la communication d'Alain Talon, professeur à l'université Paris 4 Sorbonne, consacré au gallicanisme. Nous écoutons Alain Talon. Qu'est-ce que le gallicanisme ?
À cette question que m'ont soumise les organisateurs de notre colloque, je serais tenté de répondre, pour les 16e et 17e siècles qui me sont les plus familiers, que le gallicanisme est d'abord un anachronisme. Le terme, vous le savez, a été inventé au XIXe siècle, appliqué après coup aux réalités d'anciens régimes, au risque peut-être de les travestir. Il s'agissait aussi d'introduire de façon peut-être un peu abusive le nationalisme ecclésiastique que l'on décelait à bon droit dans l'ancien régime, dans la longue chaîne idéale qui conduisait des légistes de Philippe le Bel aux anticléricaux de la Troisième République. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la plupart des défenseurs, prestigieux ou moins connus, du gallicanisme au XVIe et au XVIIe siècle ont fait l'objet de thèses universitaires à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des thèses qui, pour la plupart, n'ont pas été remplacées. Il y a cependant une réalité derrière ce mot de gallicanisme. La défense des libertés et privilèges de l'Église gallicane est un des thèmes récurrents de la littérature politique, juridique ou théologique sous l'Ancien Régime. Un thème qui surprend même par sa longévité, même si les contenus varient d'une période à l'autre. Dans les deux dernières décennies du XVIe siècle, quand la perspective puis la réalité d'un roi protestant renversait toutes les certitudes politiques et juridiques, de nombreux juristes ont essayé de codifier ces libertés afin de les préserver face à une active politique romaine d'intervention dans les affaires du royaume. Les listes établies alors varient, mais on peut rappeler les principes définis notamment par exemple par Pierre Pitou dans son traité sur les libertés de l'Église gallicane paru en 1594, qui énumère 83 libertés mais les résume en deux maximes générales. La première est que les papes ne peuvent rien commander ni ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles, est-ce pays et terre de l'obédience et souveraineté du roi très chrétien. Et s'ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets du roi, encore qu'ils fussent clairs, ne sont tenus leur obéir pour ce regard. La seconde, qu'encore que le pape soit reconnu pour souverain est-ce chose spirituelle, toutefois en France, la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, mais est retenue et bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Église reçus en ce royaume. Retenons de cette définition son insistance sur l'aspect limité du pouvoir pontifical, dont les accents anti-absolutistes, en France la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, pouvaient à l'occasion s'appliquer à d'autres pouvoirs qu'à celui du pape, et explique que la monarchie, tout en utilisant le thème des libertés gallicanes comme une arme facile dans ses rapports avec Rome, a montré à l'intérieur du royaume une certaine méfiance devant l'expression trop nette des libertés gallicanes. Ce principe d'une souveraineté pontificale limitée sur le plan spirituel et, sinon nul, du moins subordonné au pouvoir royal sur le plan temporel, constitue l'essentiel du gallicanisme, et on retrouve substantiellement les mêmes expressions près d'un siècle plus tard dans les célèbres quatre articles adoptés le 17 mars 1682 par l'Assemblée du clergé de France. Mais ce gallicanisme dépasse l'aspect simplement juridique pour se poser aussi en ecclésiologie qui concerne toute la chrétienté. À la vision romaine d'un pape pasteur de l'Église universelle, les théologiens gallicans opposent une conception du pouvoir pontifical comme garant de la communion entre des églises nationales qui sont les composantes essentielles de l'Église universelle. Et cette ecclésiologie permet aux juristes français d'affirmer que les libertés gallicanes ne sont pas des privilèges concédés par les papes à une nation ou à une église, mais bien le droit naturel et ancien de l'église que les papes ont réussi à battre en brèche partout dans la chrétienté, sauf dans le royaume de France. Jacques Faye d'Espèce, par exemple, lors des états généraux de Blois de 1588, affirme que les principes gallicans proviennent d'un droit naturel, légitime et commun à toutes les nations, qu'aucun concile n'avait jamais disputé à la France. Les juristes gallicans ne pouvaient cependant s'empêcher de constater la solitude française dans la chrétienté restée catholique. Mais ils n'hésitaient pas, justement, à affirmer la vocation, au moins idéale, de cette exception française à l'universalité. Et c'est sans doute là la première manifestation d'une tendance durable de notre pays à revendiquer sa différence pour mieux l'ériger ensuite en norme universelle. La justification des libertés gallicanes n'est pas donc restée sur le simple plan canonique et juridique. Pour expliquer pourquoi la France, seule parmi toutes les nations de la chrétienté, avait su préserver le droit naturel de l'ancienne Église, les érudits gallicans du XVIe siècle s'appuient sur une véritable histoire sainte, propre au royaume et à ses habitants. Mobilisant les nombreuses légendes locales de fondations apostoliques, ils peuvent faire valoir l'antiquité de l'Église de France, sans pareil en Occident. On ne saurait négliger cette construction historique qui se matérialise un peu partout dans le royaume, dans les innombrables églises, reliques, légendes, miracles attribués aux compagnons du Christ ou de ses apôtres qui seraient venus évangéliser la Gaule après la Pentecôte. Lazare, Marthe, Marie-Madeleine, bien sûr, mais aussi Martial, le jeune garçon qui aurait apporté au Christ le pain et les poissons qui se multiplièrent miraculeusement, Denis, le disciple athénien de Paul, venu apporter à Paris la sagesse païenne convertie à la foi chrétienne, et tant d'autres disciples, soit du Sauveur, soit de Pierre, de Paul ou de Jean. L'écho de ces légendes dépasse le simple cadre local, le patriotisme de clocher. On le voit dans un des premiers guides touristiques français, les antiquités et recherches de villes, châteaux et places les plus remarquables de toute la France, qui paraît à Paris en 1609, et dont l'auteur, André Duchesne, recueille tous ces récits, les accumule pour chacun des lieux, en rappelant la fondation de l'église locale par un apôtre ou un disciple des apôtres du Christ. L'accumulation de ces récits ne pouvait que confirmer le lecteur dans une certitude de sainteté exceptionnelle du royaume. Cette certitude explique l'affirmation, fréquemment répétée au XVIe et au XVIIe siècle, que le Christ, en mourant, regardait vers la France. Si l'érudition critique qui naît dans ces siècles fait peu à peu justice de ces légendes, son impact est loin d'être immédiat et il peut difficilement concurrencer des croyances immémoriales. D'autre part, ces érudits gallicans développent aussi d'autres mythes historiques qui confirment l'idée d'une excellence de l'Église française. Le modèle est celui de l'Église franque, sous les souverains mérovingiens et carolingiens, qui illustre l'image idéale d'une Église sous la tutelle éclairée d'un souverain, conseillé par ses évêques, et qui protège une papauté bien faible et réduite à une simple primauté d'honneur. Cette Église franque, le rappellent nos historiens gallicans, a apporté la vraie foi au reste de l'Occident et a su résister, contrairement aux Espagnols, aux assauts de l'islam qui s'emparent alors durablement de la péninsule ibérique. Le rôle des Français dans les croisades est aussi mis en avant, parfois avec des nuances. D'autres thèmes sont développés dans cette histoire sainte gallicane au XVIe siècle. L'exclusion des hérétiques, notamment avec la fréquente répétition du vieil adage emprunté à saint Jérôme « Seule la Gaule ignore les monstres ». Un adage qui, certes, est désormais contredit par la réalité d'une façon évidente à partir des années 1550. De même, l'exclusion des Juifs face à l'Espagne, toujours brocardée comme marane, ou à l'Italie, qui tolère des communautés juives dans plusieurs de ses villes. À la fin des guerres de religion, l'anti-judaïsme gallican est sans doute même un moyen de recréer une unité nationale contre l'Espagnol identifié aux Juifs. Je voudrais surtout insister sur la place ambiguë que tient la monarchie dans cette idéologie gallicane. Elle est bien sûr le premier acteur de l'histoire sainte de la nation française. C'est à partir de la fin du XVe siècle que la vulgate historique française développe à l'infini le titre de fils aîné de l'Église appliqué au roi de France. Et il faut noter que l'occurrence fille aînée de l'Église appliquée à la France est au contraire extrêmement rare pendant nos siècles. Cette insistance n'est pas une simple rhétorique, elle s'accompagne d'une légitimation de l'intervention du souverain français dans les affaires ecclésiastiques. Premier roi chrétien, le roi de France a hérité du pouvoir impérial de correction des abus de l'Église et même, pour certains défenseurs du gallicanisme monarchique, d'un pouvoir d'arbitrage dans les querelles dogmatiques qui peuvent déchirer la chrétienté. Avec les guerres de religion, cet idéal du roi de réforme, garant de la pureté de la foi et des mœurs ecclésiastiques, passe l'épreuve de la mise en pratique. Et les résultats sont peu convaincants dès le colloque de Poissy de 1561, qui est un échec. La monarchie ne peut s'imposer aux intransigeances confessionnelles et son effort de médiation est même perçu avec la plus grande défiance, au moins du côté catholique. Si le roi n'est pas accepté comme arbitre impartial, c'est en grande partie parce qu'il a déjà trahi le rôle que l'idéologie gallicane lui assignait. En effet, les libertés de l'Église gallicane ne sont pas seulement un rempart contre les prétentions pontificales. Plus discrètement, elles sont aussi un moyen d'empêcher la protection royale de se transformer en une tutelle trop pesante. Église nationale, l'Église gallicane ne veut pas devenir une Église d'État soumise au pouvoir temporel. Et les milieux gallicans sont d'autant plus attentifs à ce péril que la royauté a déjà violé le pacte gallican, notamment par le concordat de 1516. qui retire à l'Église de France la liberté d'élection de ses évêques et de ses abbés, liberté certes devenue toute théorique, mais qui suscite une opposition durable, non seulement dans les milieux ecclésiastiques, mais dans pratiquement tous les groupes de l'élite politique du temps. Cette opposition est étouffée un temps par la monarchie autoritaire de François Ier et Henri II, mais elle ressurgit pendant les guerres de religion et dure jusqu'au XVIIe siècle. Encore sous le règne d'Henri IV, son représentant à Rome se permet en 1601 de lui faire la leçon en disant « Si les papes ont entrepris sur les libertés de l'Église, les rois sires n'ont pas fait moins sur leur royaume et sur leurs églises même ». Après une longue démonstration, comme quoi le pacte conclu avec le pape en 1516 violait les libertés de l'Église gallicane. Le concordat montre que la monarchie préfère une cogestion avec Rome de l'Église gallicane plutôt qu'une défense des libertés qui la gênaient autant qu'elle indisposait la papauté. Ça n'empêche pas les rois de continuer à défendre officiellement le gallicanisme, mais cette adhésion de façade ne cache pas, sur le long terme, la profonde connivence entre les deux absolutismes, royal et pontifical, qui survit aux innombrables sautes d'humeur dans les relations franco-romaines sous l'Ancien Régime. Cet abandon d'une partie des libertés gallicanes par la monarchie a compromis largement le charisme royal et a donné au gallicanisme d'Ancien Régime une tonalité d'opposition, voire un aspect de contre-pouvoir que revendiquent successivement soit l'Assemblée du clergé, soit le Parlement, soit la Faculté de théologie de Paris, soit différentes institutions qui prétendent à leur manière représenter l'Église gallicane. Ces différentes institutions peuvent se combattre, incarner des versions différentes du gallicanisme, mais elles ont en même temps une unité profonde qui est de défendre cette Église, certes contre les empiétements romains, mais aussi contre les appétits du pouvoir royal. On le voit par exemple dans la réclamation faite par le clergé de France de recevoir les décrets du Concile de Trente. Longtemps, une historiographie un peu datée, celle par exemple du chanoine Victor Martin dans son livre sur le gallicanisme du début du siècle dernier, y avait vu une sorte de soumission à Rome. Ça n'est pas du tout le cas. Si le clergé de France demande la réception des décrets du Concile de Trente dans le royaume, c'est pour avoir au contraire une arme juridique à opposer à la fois au roi et au pape pour défendre le pouvoir des évêques, un pouvoir des évêques qui avait été remis à l'honneur par les décrets tridentins. Donc, à sa manière, le combat du clergé pour introduire officiellement les décrets dans le royaume est un combat gallican. Le gallicanisme est en effet une idée d'équilibre des pouvoirs entre le pape et le roi, qui restent chacun dans le rôle qui leur est assigné et qui permet de maintenir les libertés de l'Église. Ce n'est donc en rien un schisme raté, ce n'est en rien une évolution qui ne serait pas allée jusqu'au bout, jusqu'à sa logique, qui aurait été la rupture définitive avec Rome sur le modèle anglican. Au contraire, ce modèle anglican, au XVIe et au XVIIe siècle, est souvent perçu comme un repoussoir, et il existe une véritable légende noire de la réforme anglicane qui se développe dans les milieux gallicans du royaume. On a surtout insisté sur la fascination que pendant un certain temps, l'Église anglicane, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, a pu exercer sur quelques érudits gallicans. À mon avis, elle masque le rejet qui a été beaucoup plus massif de ce modèle d'une Église d'État. Tout autant d'ailleurs que le modèle espagnol d'un catholicisme d'État soumis à l'Inquisition qui est dénoncé comme purement hypocrite et mis au service d'objectifs purement politiques. Paradoxalement, s'il y a un sens au gallicanisme, c'est peut-être l'attachement à Rome. J'en veux pour exemple un très beau texte en septembre 1610 d'un vieux gallican, le chroniqueur Pierre de l'Étoile, qui s'interroge sur son appartenance confessionnelle et son appartenance religieuse, étant donné ses sympathies pour la théologie réformée. Et il termine cette méditation en disant « Pour conclusion, je suis enfant de l'Église romaine, puisqu'en Icelle j'ai reçu le caractère et marque des enfants de Dieu, à laquelle je m'assure que Dieu me reconnaît et reconnaîtra toujours pour sien. Je n'ignore point cependant combien cette Église a dégénéré de la primitive, de laquelle on n'y remarque que des traits effacés, bien que le fondement qui est le principal y soit demeuré. D'en avouer et défendre les erreurs, je ne puis le faire pour ce que Dieu me le défend. J'en embrasserai toujours de bon cœur la réformation. » Mais je n'en consentirai jamais la dissipation. Et quand même elle serait putain, comme les Huguenots veulent, encore serait-ce ma mère, à laquelle les souverains magistrats doivent rendre sa chasteté et premiers habits nuptiaux. Rome, mère et putain. Bien avant Pasolini ou Fellini, les juristes gallicans déclinent avec fureur, mais aussi avec tendresse, ce thème qui leur permet à la fois de dénoncer la corruption romaine, mais en même temps de montrer leur extrême sensibilité à la sacralité de l'ours, à la mission universelle que conserve la papauté. Le rejet de l'absolutisme pontifical ne conduit pas au rejet, au contraire, de l'universalisme que continue d'incarner Rome. Il conduit bien plutôt les Gallicans à se poser en censeurs de cette papauté. Et une métaphore souvent reprise par ces juristes ou ces théologiens gallicans, c'est bien sûr celle du coq, le gallus, qui chante pour amener Pierre à la pénitence et aux larmes après son reniement. En conclusion, pour respecter les indications de notre président, les défenseurs de la laïcité, il y a un siècle, ont-ils eu raison d'inclure le gallicanisme d'Ancien Régime dans les courants précurseurs de leur combat? En partie, non, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord parce que si elles se veulent un rempart face à l'absolutisme romain, les libertés gallicanes cherchent aussi à éviter l'assujettissement de l'Église par l'État. Bien plus que l'inverse. Il s'agit de défendre la liberté de l'Église, bien plus qu'une neutralité quelconque de l'État. Non plus parce que le gallicanisme est une vision essentiellement religieuse de la nation française, dont l'excellence chrétienne justifie la prééminence politique. Non enfin parce que le gallicanisme reste viscéralement attaché à Rome, une Rome idéale des premiers temps chrétiens, opposée à la Rome bien réelle des papes de la réforme catholique. Une Rome idéale qui reste la garante de l'universalité de l'exception gallicane qui ne saurait se renfermer dans l'égoïsme d'une religion d'État. Et c'est peut-être justement cette prétention d'un particularisme national à l'universalité qui est le legs le plus évident que l'idée gallicane a laissé à la conception française de la nation, en tout cas celui que l'idée laïque, profondément différente, a le plus volontiers recueilli.
C'était Alain Talon, professeur à Paris 4 Sorbonne, qui s'exprimait sur le gallicanisme. Merci d'être avec nous sur Canal Académie.